les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les héroïnes, une heure avec des meufs. Ronan vient de le dire, c'est le retour pour une nouvelle saison. Et comme on ne change pas, une équipe qui gagne et qui brille et qui pétille. Aujourd'hui, autour du plateau, on retrouve Marine Combes, fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe Renée Yeg, que l'on peut lire sur yegmag.fr. Bonjour Marine.
Bonjour.
On retrouve Emma Baudouin, étudiante à Sciences Po Rennes. J'ajoute un truc, Emma, en césure, non, comment on dit ?
Ouais, en césure, en pause.
En pause. Voilà, bonjour Emma.
Bonjour.
Et Suzanne Joly, créatrice des ateliers d'éducation à la vie affective, à la vie sexuelle et à l'égalité filles-garçons. Suzette décolle les étiquettes. Autrice du livre L'amour, la sexualité, on s'en parle, aux éditions Magenta dans la collection Sans Tabou, et cofondatrice du festival Aux Parleuses. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Vous faites beaucoup trop de choses.
C'est trop long, cette intro à chaque fois.
Non, mais voilà, c'est pour débuter la nouvelle saison, je ne le dirai plus de l'année. Et puis par la pensée et sans doute, enfin j'espère, par le cœur, Lucie Loipre, journaliste et productrice de l'émission d'info locale L'Arène à Canal B, qu'on écoute tous les jours à 17h sur cette même antenne. Et bien Lucie, elle sera là avec nous dans d'autres émissions pour nous régaler de ses reportages et de ses interviews de qualité. Alors nous avons également des invités avec nous aujourd'hui, Vigetta, animatrice à la MJC La Maison de Suède, qui est accompagnée d'Aya, Kenza, Sherifa, Ayrou, Nissa et Aïssénour, j'espère que je prononce bien, avec lesquels on va parler du livret Les 10 commandements d'une fille de quartier. Mais on va d'abord commencer par les actus. C'est pas super réjouissant pour changer. Et Suzanne, c'est avec vous, vous avez la tâche, l'honneur de commencer. Votre actu, elle concerne le site de rencontre pour adolescents et adolescentes, Rencontre Ado.
Voilà, un gros sujet. Mais oui, j'avais envie de parler de ce site de rencontre parce que bah, du coup, ce n'est pas un site de rencontre comme les autres, c'est un site de rencontre pour les ados. Alors déjà, le concept peut un peu étonner en soi, mais ce qui pose d'autant plus question, c'est la tranche d'âge qui est visée par ce site. Parce que forcément, quand on parle d'adolescents, adolescentes, on se demande à quel âge ça commence, à quel âge ça termine. Et du coup, bah, qui cible ce site? Et alors eux, ils ont fait le choix de cibler les 13-25 ans. Voilà. Donc, 25 ans, c'est drôle parce que...
C'est pas
déjà...
large du tout.
Voilà, c'est ça. Et puis surtout, 25 ans, on est déjà un peu loin de la puberté. On a le permis de conduire, on a le droit de vote, on a probablement quitté le nid familial, on est peut-être en études ou parti ou en emploi ou que sais-je. Mais en tout cas, voilà, on est loin des questions ados. Enfin, on est loin des 13 ans, quoi. 13 ans, c'est... on est dans le dur de la puberté. Peut-être même qu'elle n'est pas encore passée. Et puis, bah, surtout, il y a le collège, l'obligation scolaire, tout ça, quoi. Donc voilà. Donc forcément, cette tranche d'âge, elle pose problème, puisqu'elle autorise de fait la rencontre entre des majeurs et des mineurs. Voilà. Tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien qui se cache derrière ce site, parce que déjà, il n'y a même pas de mention légale sur la page d'accueil. Donc franchement, je n'ai pas réussi à savoir qui était derrière. On sait toutefois que c'est un site francophone qui existe depuis 2006, donc c'est long. Mais en fait, il fait polémique depuis cet été. Pourquoi ? Parce qu'il y a des journalistes qui s'y sont infiltrés et qui ont bien sûr révélé une ambiance de prédation sexuelle sur mineurs, une bonne ambiance de pédocriminalité, donc c'est pas très étonnant. Et donc ça permet aussi de rappeler qu'il existe des lois hein, quand même pour protéger les mineurs en France, et puis il y a notamment une loi qui a été mise en place en 2021, donc qui est quand même récente, mais qui fixe le seuil de consentement à partir de 15 ans, et cette loi en plus elle a été validée par le Conseil constitutionnel cet été. Donc ça veut dire que les moins de 15 ans n'ont pas approuvé leur leur consentement ou non en cas de relation ou d'acte ou de comportement à caractère sexuel avec des personnes majeures, puisqu'évidemment c'est pas des questions de consentement, mais c'est des questions de domination, de pouvoir, d'emprise, etc. Il y a d'ailleurs un jeune, une fois en séance d'éducation à la sexualité, qui m'avait dit, mais si on voulait protéger vraiment les mineurs, pourquoi est-ce qu'on a mis ça à 15 ans? Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus. En tout cas, du coup, on sait que d'un point de vue légal, bah, ce site, il devrait être un peu dans le viseur, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des choses très catholiques qui s'y passent. Enfin, voilà, faut pas faire l'autruche non plus. Et d'ailleurs, il y a déjà eu plus de 400 signalements à ce propos. Et ce qui est drôle ou pas, c'est de voir ce que met en place ce fameux site pour essayer de se protéger un peu et du coup, l'hypocrisie du règlement général qui en ressort et dont voici quelques extraits. Premier point du règlement général, il est strictement interdit aux mineurs de s'inscrire sans l'accord d'un parent ou de la personne en charge de ceci, et il est conseillé aux parents de mineurs de surveiller leur enfant pendant qu'il navigue sur le site. Donc bien sûr, on y croit, et je pense que...
Ah non, je
j'adorerais que mes parents soient derrière en voilà. train de regarder ce que je fais sur un site de rencontre.
Je pense qu'ils ont bien compris ce que c'était que d'être ado, la relation aux parents, la relation à l'interdit, tout ça, tout ça. Et puis en plus, bah, qui va lire le règlement général sur un petit onglet à part et l'appliquer, enfin voilà. Deuxième point, il est strictement interdit de remplir son profil avec de fausses informations.
Oh bah dis donc,
non, parce qu'on avait eu peur.
Faut pas déconner.
Donc voilà, ou comment se dédouaner de si des personnes mentent sur leur âge ou trafiquent leurs photos, parce que évidemment c'est tout le problème. Quand on permet à des mineurs de s'exposer sur la toile, ben on attire tous les pédos du coin et ce peu importe leur âge. Et initialement, le site, ils avaient quand même mis en place une petite barrière, c'est-à-dire que si on renseignait son âge, avec l'idée que ce soit le vrai, eh ben, ça bloquait l'accès à d'autres utilisateurs, utilisatrices, dans le sens où s'il y avait une trop grande différence d'âge, il y avait quand même ce blocage-là. Mais ils l'ont fait sauter parce que apparemment, les utilisateurs et utilisatrices râlaient. Donc voilà. Bon, puis de toute façon, ça n'empêche pas le problème de pouvoir mentir sur son âge. Ensuite, il est strictement interdit de demander des plans cam ou cul. Donc, pourtant, les journalistes qui m'ont infiltré le site disent que, bah, bien sûr, c'est ultra courant. Il y a des adultes qui font des propositions directes à caractère sexuel aux mineurs, etc. Donc voilà. Ensuite, c'est écrit « Rencontre ado ne peut pas être tenue responsable de ce qui se passe en dehors du site ». Donc déjà, il faudrait être responsable c'est de facile, ce qui se passe ça. Sur ouais, le site.
Tellement facile.
Voilà. Et puis en plus, bon, oui, c'est clair, on se dédouane. Et, mais voilà, on permet encore une fois une rencontre virtuelle entre majeurs et mineurs. Et après, on se dit, ce qui se passe ensuite ne nous concerne pas, quoi. Et après, il y a aussi le règlement relatif aux photos. Et donc là, il est écrit pas de photos dénudées, pas de photos en sous-vêtements, pas de photos où l'on voit le pubis. Donc ils sont quand même un petit peu... Ils ont quand même réfléchi que ça pouvait arriver. Mais ils précisent aussi pas de photos de vous enfant, seulement des photos récentes. Mais alors c'est drôle parce que sur la page d'accueil, du coup, déjà c'est bizarre, mais on voit les photos des profils des jeunes qui s'y inscrivent. Et clairement, qu'on le veuille ou non, à 13 ans, on a une tête d'enfant, on a une tête de prépubère, enfin voilà. Donc, c'est désolant.
C'est très hypocrite, c'est dégueulasse, quoi.
Ouais.
De se protéger comme ça, en plus en balançant la photo aux parents à ceux qui pourraient s'y inscrire en mentant.
Mais même d'un point de vue autorisation droit à l'image et tout, le fait que leur photo soit affichée dès la page d'accueil et tout, je trouve ça, ça questionne aussi, quoi. Donc voilà, donc finalement, par tout ce règlement, on comprend bien que Rencontre Ado, ils ont quand même imaginé ce qui allait se passer sur ce site et que forcément, il y aurait des échanges à caractère sexuel, etc. Mais que concrètement, à part dire « faites pas ci, faites pas ça », il n'y a pas grand-chose de mise en place. Et donc, c'est pour ça que les signalements continuent et qu'il en faut plus pour que ça se régule.
Ouais, parce qu'on n'en parle plus trop. C'est vrai que ça a fait la polémique en juin-juillet. On disait même que c'était un repère de pédophiles avec les journalistes infiltrés qui ont pu obtenir des choses ahurissantes, voire des choses ahurissantes. Puis depuis, il y a eu les punaises de lit, il y a eu les trucs comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà. Méfiez-vous si vous avez des ados, des enfants qui vous demandent
je vais aller bien sur l'épaule de votre enfant quand l'enfant va sur ce site.
Ouais, exactement. Merci Suzanne. Le service d'autoprotection pailletée, le SAP, et l'ensemble de son équipage repérable par des pancartes violettes portées en sandwich sont heureux de vous accueillir pour cette manifestation en route vers la fin du patriarcat. Nous vous proposons d'assurer votre confort durant cette marche en encadrant un cortège de têtes en mixité choisie. Pour cela, nous vous rappelons que le principe de ce cortège est de laisser les personnes concernées prendre la tête. Les consignes pour ce cortège vont vous être présentées.
Nous sommes le 8 mars 2021 et la foule s'amasse à République. Depuis plusieurs années, ce sont les militants militantes de Nous Toutes 35 qui organisent les manifestations du 8 mars et du 25 novembre. Pas de secret ni de miracle pour les militantes. Pour organiser une lutte inclusive, l'essentiel est de s'armer d'informations, de rencontres et de discussions autour des situations spécifiques. Mélissa explique. Il nous faut nous éduquer nous-mêmes, aller voir les collectifs, les associations, se renseigner, écouter. Elles insistent, elles sont pas parfaites. Elles parlent avant tout du fait d'expérimenter, de tester et d'avancer ensemble. Les 8 mars suivants prennent une autre ampleur, puisque désormais la centaine d'associations qui composent la coordination féministe appelle ce jour-là à la grève générale et massive. Cantine de rue, garderie collective, caisse de grève, il est essentiel de puiser les idées et outils dans les réussites du passé et les expériences des concernés, des militantes, des travailleuses, de toutes celles qui participent à la lutte du quotidien du terrain. Repenser l'organisation de la société. Là encore, un travail minutieux s'impose. Pour une grève massive et inclusive, l'organisation en amont est primordiale. Les militantes le disent, une journée de grève, c'est une année de préparation minimum. Phil de la Coordination nationale féministe nous dit. Alors oui, ça rajoute des nouvelles choses à penser, mais c'est aussi plus gratifiant de réfléchir et organiser un mouvement général. C'est plus valorisant. On ne fait pas les choses dans le vent, on n'est pas seul, on va réussir à faire ça ensemble et ça, c'est motivant. Leur force émane du collectif, du fait de se retrouver, de s'encourager, se valoriser dans les expériences et compétences des unes et des autres. Lisa ajoute en souriant « On est pour un militantisme qui ne soit pas du sacrifice. Ça ne veut pas dire que c'est simple à organiser, ça veut simplement dire que la balance de force et de bien que ça nous apporte pèse plus que la difficulté. Ça nous donne de la force pour la suite. Des fois, on se sent seul, échanger avec des personnes qui ont les mêmes difficultés, ça fait du bien. On s'envoie des messages de cœur, d'étoiles, on discute dans la joie et la bonne humeur, c'est un mélange de rage et de paillettes. On sent l'importance et l'attrait de l'esprit collectif, ainsi que de la concrétisation de l'engagement pour une cause à travers l'activisme, que ce soit les collages, participation aux manifestations, investissement dans une association ou un collectif, etc. On rappelle au passage que dans la majorité des cas, il s'agit de missions portées bénévolement. Cet engagement militant requiert une implication émotionnelle et physique, c'est prenant de militer. Ça peut être joyeux, festif, ça permet d'exulter ensemble, mais aussi d'exprimer sa tristesse et sa colère. Une colère qui tient souvent lieu de moteur, mais peut aussi déborder par sentiment d'impuissance parce que les violences pleuvent dans tous les pans de la société. C'est donc une plongée très vertigineuse dans un quotidien noyé sous les inégalités de genre, mais pas uniquement, bien évidemment. Il y a aussi le racisme, les LGBTI-phobies, le validisme, le spécisme, le classisme, etc. Alors on parle souvent des lunettes de l'égalité, une image qui permet d'illustrer le fait de voir de manière claire et précise les situations de sexisme, les mécanismes de cette domination et les violences exercées chaque jour sur les personnes sexisées. Évidemment, la focale se fait progressivement. Au fil des rencontres, des échanges, des vécus, des ressentis, des sensibilités, des lectures, des séries, des films, des documentaires, des podcasts, des conférences, des spectacles, etc., etc. Parce que pour comprendre les inégalités de genre et lutter contre, ça requiert pas mal de recherches, d'investissement personnel pour aller chercher les réponses aux très nombreuses questions qui nous assaillent. C'est du temps, de l'énergie, on mobilise corps et esprit dans cette cause, aussi bien individuelle que collective. Petite précision, j'aborde dans cette chronique la charge militante, mais ne charge personne de l'obligation de militer ou de se dire militant, militante, de s'investir corps et âme dans le combat féministe, et surtout, je réduis pas le militantisme uniquement à l'action collective. Ça pourra faire l'objet d'une autre chronique. Je reviens donc à mon propos. Le cheminement vers la déconstruction demande beaucoup de temps, d'investissement, de patience et de bienveillance. Déjà parce que quand on se définit féministe, on devient en soirée, mais aussi dans diverses temporalités, la personne avec qui débattre à tout prix. On essuie les commentaires sexistes, les blagues potaches et provocatrices, les regards amusés, les questions commençant par « T'en penses quoi, toi, en tant que féministe ?» Bien souvent, la suite, elle est pas jolie jolie. « T'en penses quoi, toi, en tant que féministe, des femmes qui mentent sur le viol subi juste pour faire de la thune ?» Ou « T'en penses quoi, toi, en tant que féministe, des femmes qui abusent de leur pouvoir pour demander la garde exclusive des enfants ?» Des questions, donc, qui ont le chic de nous mettre dans des bonnes conditions. Des questions qui cherchent avant tout à nous déstabiliser, à nous inconforter, à nous énerver pour que le débat puisse se clôturer par « te mets pas en colère, on discute juste » ou le fameux « on peut vraiment plus rien dire avec vous ». Si vous vous en êtes assez bien sorti selon les critères des éléments dominants, vous aurez peut-être le droit à « toi, franchement, ça va, t'es une féministe cool, pas comme les autres hystériques ». En tant que militante féministe, on est prise entre l'injonction à une pédagogie douce et light, comprendre hein, qu'il faut qu'on reste en superficie, car dès lors qu'on rentre dans les détails, on saoule tout le monde, on va trop loin, on exagère, on est des radicales, on est des féminazies, et l'injonction à être des bonnes féministes, par peur d'être jugée mauvaise féministe de la part des autres militantes. Maya Lebras, elle parle du burn-out militant sur le site de La Respublica, journal étudiant basé du coup à la fac de droit et de sciences po Rennes. Elle dit « Il est facile de s'oublier. Comment prendre une pause quand une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint ? Les signes sont là, stress, insomnie, crise d'angoisse, de plus en plus récurrents mais non écoutés. Et puis l'implication totale, émotionnelle comme physique, lorsqu'elle est confrontée à la réalité, provoque la dure sensation de ne pas avancer, de constater peu de résultats. L'hermétisme et la lenteur de la société sont fatales, on crie dans le vide. » Alors il est important d'en parler, pour s'autoriser à dire les choses, à rester sous la couette, s'autoriser à paresser, à ne pas entrer dans le débat à chaque fois qu'une personne, en général un homme, nous provoque en disant que les femmes dénonçant les inégalités de genre devraient arrêter de se plaindre et de jouer les victimes, s'autoriser à pleurer parce que les violences, qu'elles nous soient directement adressées ou non, sont beaucoup trop nombreuses et très difficiles à absorber. Bref, on n'a pas à justifier de la colère, la tristesse, la joie, la déception, l'espoir, en gros des émotions qui nous traversent, militantes ou non. Les routes qu'on emprunte sont escarpées, pentues, vertigineuses, boueuses, glacées, glissantes, entravées, abîmées, mais elles sont aussi réconfortantes et amusantes. Elles ont un goût de challenge, elles ont l'odeur de l'espoir, elles ont des formes variées, elles nous font vivre des expériences insolites, exceptionnelles, parfois frustrantes, parfois décevantes, mais toujours assez enrichissantes. On peut se reposer, croiser du monde, se nourrir, se rafraîchir, se recroqueviller, s'abriter, s'exposer, crier, rigoler, jouir, seul ou à plusieurs, marcher, courir, escalader, se perdre, faire demi-tour, admirer le paysage, penser à l'arrivée, rêver la suite, se dire qu'on n'y arrivera jamais, inventer les sentiers, les créer aussi, s'abandonner à sa destinée, ce que vous voulez en fait, tant que vous ne vous oubliez pas sur les chemins de l'égalité.
Merci Marine pour cette chronique sur le militantisme qui peut être à la fois très exaltant et bienfaiteur et puis en même temps épuisant et voire même parfois un peu dangereux pour la santé mentale quand on se retrouve comme ça en soirée face à des gens qui vraiment nous agressent aussi. Et est-ce que on peut ajouter que parfois dans ce militantisme on a des baisses de forme, des chutes de tension et puis qu'il y a les copines ou des gens des personnages publics, moi je pense à Andréa Bescon, qui nous redonne un petit coup de boost ou qui prennent pendant que nous on est en chute de tension la relève et que c'est ça aussi le militantisme et notamment féministe et puis antiraciste et écolo aussi, voilà, parce que les uns ne vont pas sans les autres.
Quand on fait la liste des discriminations, déjà on est un peu fatigué à la fin.
C'est ça, déjà on est épuisé. Merci Marine. Alors Emma, votre actu, elle est un peu plus joyeuse, j'allais dire un peu plus frivole, et tant mieux, parce que vous nous parlez de Sex Education.
Oui, la fameuse série Netflix. Alors il y a 2 semaines, j'ai eu la chance d'avoir le Covid, n'en déplaise à toutes celles et ceux qui m'ont dit que ça n'existait plus. Et si. Et j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu au moment où la saison 4 de Sex Education sortait et j'ai donc pu passer une journée entière devant ces 8 à 10 heures d'épisodes et c'était un pur plaisir. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sex Education, même si ça me paraît un peu étrange, je peux faire un récap express de l'histoire, mais globalement c'est un monde aux couleurs pastel, avec des accents british mélodieux et où on parle de tout sans aucun tabou.
Hi everyone, I'm Otis Milburn. I'm new here, I'm with the whole Mordell Secondary team.
Yeah.
Thank you. I just wanted to let you know a little bit about myself. I spend a lot of my free time thinking about sex. I live and breathe sex. All day. Every day.
Donc Otis, c'est un adolescent on ne peut plus normal et invisible et très heureux de l'être, qui s'y connaît pas mal en sexe. Non, pas parce qu'il a de l'expérience, bien au contraire, mais parce que sa mère est sexologue. Et avec Maeve, donc l'ado méchante qui fait peur et qui a beaucoup de noir autour des yeux, il décide de lancer un cabinet de sexologie dans son lycée pour répondre aux questionnements et aux problèmes de sexe de ses camarades. Attention, cette série est extrêmement drôle et elle aborde tout plein de sujets autour de la sexualité, des questions d'identité, des problèmes de santé mentale et j'en passe. Rien n'y est tabou, donc si vos cours d'éducation sexuelle ont failli à leur tâche, ça c'est si vous en avez eu, n'hésitez pas à compenser en regardant cette série qui fait du bien. Alors moi, il faut savoir que je suis une grande consommatrice de séries, ce qui est un terme enjolivé pour cacher une addiction manifeste et une incapacité à m'arrêter quand je commence quelque chose. Mais il y a des séries qui sont plus agréables à binge-watcher que d'autres et Sex Education en fait partie. Il faut savoir aussi que je suis très friande de séries pour ados et ça fait un bien fou de ne pas avoir à choisir entre avoir de la légèreté ou avoir des personnages bien écrits. Puisque Sex Education a les deux. La série reprend les clichés sur les adolescents pour les détourner complètement et elle prend le temps d'approfondir l'histoire de tous les personnages, même secondaires. Il y a une vraie diversité mais qui n'apparaît pas forcée. Les personnages sont complexes et bien écrits. Là-dedans, donc, l'adolescence apparaît comme ce qu'elle est vraiment, avec toutes les questions et surtout tous les moments gênants qui l'accompagnent, mais c'est traité avec empathie et bienveillance. Dans une interview, la créatrice de la série Laurie Nunn explique que l'équipe d'écriture est presque essentiellement composée de femmes, dont beaucoup font partie de la communauté LGBTQ+, et où sont racisées. Quelle surprise! Bien sûr, ça se ressent en regardant la série, et pour moi, c'est d'ailleurs sûrement ce qui explique qu'elle soit aussi réussie, puisque ça fait des années que des mecs cis-hétéros produisent du contenu, et j'ai un peu envie de dire qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. On a une atmosphère bienveillante, où même les sujets difficiles sont traités sans aucune forme de sensationnalisme. Je pense que l'histoire qui m'a la plus touchée, c'est celle d'Amy qui doit apprendre à se reconstruire après une agression sexuelle. C'est libérateur de pouvoir autant s'identifier à un personnage victime de VSS et le sujet est très bien traité. Et rien qu'avec cette histoire, Sex Education réussit là où d'autres séries comme 13 Reasons Why ou Euphoria avaient complètement échoué. La saison 4 était donc très attendue et je crois que c'était une réussite, même si c'est toujours aussi drôle et que l'ADN de la série n'a pas changé. Elle est quand même un peu différente des autres saisons et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ressentait déjà depuis la saison 3, qui avait un peu cette volonté de rappeler que le reste du monde n'est malheureusement pas aussi bienveillant et inclusif que cette série. Et dans cette dernière saison, donc, certains élèves d'un ancien lycée donc, changent d'école. Ils sont accueillis dans un lycée utopiste où les élèves décident de tout. Mais on a quand même plusieurs histoires difficiles et ça fait un peu bizarre parce qu'on se serait attendu à l'insouciance des saisons précédentes. Mais avec le recul, ça fait un peu sens parce qu'ils ont vieilli et ça fait plusieurs années qu'on les suit. Et c'est finalement assez représentatif du passage à l'âge adulte et de cette réalisation que la suite ne sera pas forcément un long fleuve tranquille, que des amitiés vont se défaire et se refaire, et des relations devront se séparer et faire de la place pour d'autres. Je finis juste quand même par préciser que le personnage d'Otis est absolument insupportable dans cette saison. Je crois que c'est fait exprès, il agit juste comme un point autour duquel gravitent des personnalités et des histoires plus complexes qu'on a envie de suivre, et en plus c'est un mec cis blanc hétéro, je crois... peut-être le seul de la série, donc c'est peut-être assez réaliste qu'il soit aussi immature et égoïste. Bref, j'étais triste de dire au revoir à ces personnages, mais ils ont tous eu une chouette fin. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé autour pour celles qui l'ont regardé. Personnellement, il faut avoir terminé la saison 4, j'ai immédiatement recommencé depuis le début. Et c'est absolument génial de revoir les premières saisons. Donc je vous conseille cette série, moi je reste addict. Et en attendant que d'autres équipes de meufs trop cool écrivent d'autres séries trop cool, moi je re-regarde celle-ci.
Merci Emma. Moi, je ne vais pas pouvoir participer à la conversation parce que, voilà, je n'ai jamais vu un seul épisode de Sex Education. Marine, Suzanne, vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai regardé les trois autres saisons avant que la quatrième sorte, histoire de me remettre un peu dedans. Et oui, bah franchement, déjà, ça coche tous les critères. C'est un cours d'éducation à la sexualité en soi, donc. Je la recommande plus et j'en parle à tous les élèves que je croise. Mais bon, ils l'ont tous vu aussi, donc c'est cool.
Marine ?
Bah oui, moi j'ai fait la même chose que Suzanne. J'ai regardé les trois saisons en attendant le fameux jour de sortie de la saison 4 et j'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps pendant à peu près toute la saison 4.
Ouais.
Même si j'étais pas ultra satisfaite regretter la fin. Mais ah bah, va falloir regarder Morgane parce que là, c'est incontournable. Ouais. Surtout que moi, je pense, j'ai envie de faire des groupes de discussion autour de cette série en réunissant des personnes sexisées de plein d'âges différents. Parce que justement, moi, c'est une question que je me pose beaucoup sur Sex Education, c'est est-ce que c'est, accessible. En fait, ça vient, bah, même, est-ce que c'est, je pense qu'elle est accessible, mais en fait, est-ce que ça vient répondre à un tel manque qu'on a eu quand nous, on était ados, que ça nous fait hyper plaisir de voir ces ados qui, en fait, trouvent l'accompagnement et le soutien nécessaire, quoi. Enfin, en plus, ça nous donne un espoir incroyable sur les future génération, alors que tout le monde dit que c'est foutu pour nos futures générations.
Mais ça, c'est les vieux qui disent ça,
voilà,
Marine.
C'est les boomers qui ont quand même tout fichu en l'air, mais bref. Et du coup, voilà, savoir est-ce que c'est parce que en fait, on fait partie de ces trentenaires qui filons un peu sur la quarantaine.
Oui, mais alors, je vais vraiment m'exclure de cette
personne âgée.
Ouais, moi, je suis une personne âgée.
Est-ce qu'on a envie de cette éducation sexuelle et affective dont on a manqué, justement, et ça nous fait du bien, en fait, même de voir toutes ces notions. Enfin, en fait,
on se réjouit donc de cette série. Merci Emma, Marine, Suzanne. On va faire une petite pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On va écouter Clara Issé avec son titre Douce.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur.
Alors ça, c'était donc Clara Issé avec le titre Douce dans Les Héroïnes sur Canal B.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots. Est-ce que vous savez ce qu'est la Cour des comptes? C'est une juridiction administrative indépendante qui surveille la régularité des comptes publics. En gros, elle cherche à savoir si l'argent public, c'est-à-dire le nôtre, est bien utilisé. Et elle vient de publier un rapport sur la politique du gouvernement pour l'égalité femmes-hommes. Rappelons qu'Emmanuel Macron en a fait cette égalité femmes-hommes la grande cause de ces deux quinquennats et c'est pas rien.
Le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi.
Alors, que nous apprend ce rapport de la Cour des comptes sur la politique macroniste pour l'égalité femmes-hommes? Ben, à nous, ici, sur ce plateau des héroïnes, pas grand-chose, en fait, si ce n'est ce qu'on savait déjà, que tout ça n'est qu'un effet d'annonce et que les résultats sont ridicules. En effet, les critiques de la Cour des comptes sont accablantes. Elle évoque notamment des avancées en matière d'égalité femmes-hommes très limitées à cause de politiques erratiques, d'erreurs de méthode, de responsabilités multiples dans différents ministères sans stratégie coordonnées et sans cohérence. On a un peu l'impression que c'est fait exprès. La Cour des comptes parle aussi d'un budget peu lisible. Pire, elle soupçonne des tours de passe-passe entre les différentes lignes budgétaires. Pire encore, la Cour des comptes constate que le plan d'égalité d'Elisabeth Borne pour la période à venir, c'est-à-dire 2023-2027, reproduit les mêmes erreurs épinglées dans son rapport. Alors la sénatrice et ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a commenté dans une interview accordée au journal Libération il y a quelques jours, deux points, ouvrez les guillemets, cette politique c'est de la com, c'est du bidouillage, il n'y a pas de suivi, tout cela n'est pas fait sérieusement. Depuis 2017, date de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il y a eu rupture dans la continuité, c'est-à-dire abandon des plans triennaux mis en place par des gouvernements successifs depuis 15 ans. Elle évoque aussi, Laurence Rossignol, les deux freins qu'elle avait rencontrés à cette époque pour l'égalité quand elle était ministre, qui sont le manque d'argent et le manque de mobilisation de la société française d'avant MeToo. Or, depuis, il y a eu MeToo et la Macronie aurait dû s'appuyer sur la libération de la parole des femmes, sur l'éveil des consciences concernant les inégalités et les violences. Mais non. L'ancienne ministre conclut néanmoins sur une note positive en déclarant que le rapport de la Cour des comptes peut être lu comme un guide de bonne pratique à l'intention de la ministre déléguée en charge. C'est même un outil de travail formidable. Alors que va faire Bérangère Couillard, nouvellement arrivée à ce poste auprès d'Elisabeth Borne? C'est là toute la question parce que pour l'instant c'est mal barré au vu de ce qu'elle a déclaré en réaction au rapport réprobateur de la Cour des comptes, se disant très fière de ce qui a été réalisé pour les femmes depuis 2017. On dirait du Marlène Schiappa dans le texte. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Que faut-il donc faire pour une vraie politique, bonne politique d'égalité femmes-hommes? D'abord, il faut de la thune, de vrais moyens financiers. Et en la matière, la Macronie est un peu chiche, voire radine. Et ça sera l'objet de ma deuxième actu, car c'est ce que dénonce à juste titre la Fondation des Femmes dans son nouveau rapport intitulé « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ?» Explication. En 2023, l'État aura dépensé 184,4 millions d'euros pour les victimes de violences conjugales et sexuelles, soit 0,04% du budget global de l'État. C'est 26% en moins par femme que ce qui était mis sur la table avant MeToo. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que depuis, y a donc eu le mouvement MeToo. Et je le répète, une grande partie de la société a pris conscience du problème des violences conjugales, sexistes et sexuelles. Et donc les plaintes et les signalements ont été bien plus nombreux. Logique. Tu vois, faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour le comprendre. On n'a plus peur, ou presque, de parler, voire de porter plainte. Le hic, c'est que ça coince au niveau budget, puisque celui-ci ne prévoit que 20 centimes par victime de viol. Oui, affreux constat, pour le budget d'une grande cause nationale, ça craint. Dans son rapport, après ce constat, la Fondation des Femmes a donc fait le calcul pour ce qu'il faudrait mettre sur la table en prenant en compte le parcours type d'une femme victime, donc qui va porter plainte, tribunal, prise en charge médicale, psychologique, hébergement. Et elle a multiplié le coût de ce parcours par le nombre de femmes victimes, ce qui nous fait un total de 2,6 milliards d'euros. Voilà ce qu'il faudrait au minimum. Alors oui, c'est plus, hein, c'est beaucoup plus que les 184 millions dépensés par la Macronie aujourd'hui. 2,6 milliards d'euros, c'est 0,5% du budget de l'État. C'est 39 euros par habitant. Ça vous donne un peu un point de repère. Mais 2,6 milliards, c'est le minimum. Parce qu'idéalement, il faudrait 5 milliards d'euros, soit 1% du budget de l'État. Car chaque année en France, plus de 3 millions de femmes déclarent avoir subi des violences et de plus en plus portent plainte. Osent enfin porter plainte, devrais-je dire. Dans son rapport, la Fondation des Femmes imagine des hypothèses basses, des hypothèses hautes, puisque les violences conjugales sexistes et sexuelles ne sont pas une science exacte. Mais les chiffres, eux, ne tombent pas de nulle part non plus. Ils tombent de la place Beauvau, hein, merci Gérald, si tu nous entends. Et cet argent, ces 2,6 milliards, voire 5 milliards, il est très important car les associations sont exsangues. Elles n'arrivent plus à répondre aux besoins des femmes victimes. D'ailleurs, en parlant chiffres, je voudrais vous en citer un qui me permettra par la même occasion d'évoquer la journaliste Rose Lamy qui vient de faire paraître un essai qui s'intitule « En bon père de famille » aux éditions Jean-Claude Lattès. Et elle nous rappelle entre autres que les violences intrafamiliales génèrent 45 interventions des forces de l'ordre par heure, presque une par minute, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et que ces violences, elles sont le fait, dans la très grande majorité des cas, des hommes. Alors je vous mettrai bien évidemment ces deux rapports, hein, sur les liens vers ces deux rapports sur le blog des héroïnes, pour que vous puissiez aller les consulter. Alors sinon, dans la rubrique agenda, à noter que le collectif Nous Toutes 35 organise mercredi prochain, le 11 octobre à 18h30 au BAM, bâtiment à modeler à Clenay, une réunion publique pour se rencontrer et échanger, mais aussi pour préparer le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est donc au BAM à 18h30 à Clenay le 11 octobre. Je vais finir avec, parce que j'avais très envie de vous signaler la sortie de deux choses. D'abord un film, Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique, dans lequel quatre femmes, Marion Séclin, comédienne, Laura Boldrini, présidente du Parlement italien, Kia Morris, représentante démocrate américaine, et Laurence Graton, jeune enseignante québécoise, témoignent du cyberharcèlement dont elles ont été victimes, avec un record quand même pour Marion Séclin, hein, puisqu'elle a reçu 40 000 insultes et menaces de mort. Elle raconte la haine, la violence, l'acharnement maladif, toutes les menaces d'être battue, violée, tuée qu'elles ont reçues. Et elle raconte aussi comment les politiques, les forces de l'ordre et les géants du net n'ont rien fait. Donc elles ont décidé de se défendre, de contre-attaquer avec ce documentaire de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marouast, qui est à voir absolument. Pour rappel, 87% des personnes cyberharcelées sont des femmes. Pareil, je vous mettrai le lien pour savoir où est programmé ce film. Et puis, plus local, la parution de la nouvelle édition du diagnostic HF plus Bretagne, les inégalités de genre dans les arts et la culture en Bretagne, qui identifie les disparités de genre pour aider à la mise en place de mesures politiques concrètes pour l'égalité. Pareil, je vous mettrai le lien pour aller le lire. Et puis, on est en octobre et donc on pense à Octobre Rose et on n'oublie pas de s'auto-palper les seins, d'aller se les faire palper chez son médecin, de prendre rendez-vous pour sa mammographie. On prend soin de ses seins en octobre. Et pas qu'en octobre, on en prend soin toute l'année. On fait des mammos dès que c'est nécessaire et on s'auto-palpe les seins dès que c'est nécessaire. Il y a plusieurs mois déjà, voire quelques années, les animatrices et les animateurs de la Maison de Suède dans le quartier de Bréquigny à Rennes ont fait le constat que si beaucoup de garçons fréquentaient la MJC, peu de filles s'y rendaient et que leur éventuelle présence n'était pas forcément bien vue. Une salle a donc été mise à leur disposition, la salle verte, et des animatrices ont été dédiées à leur accueil. Et l'une des premières réflexions qui a émergé alors, depuis la salle verte, c'est celle de la place des filles et des femmes dans l'espace public, avec peut-être en filigrane un ras-le-bol concernant la façon de s'habiller, le sport qu'on a envie de pratiquer, ou le simple fait de se balader dans son quartier sans avoir peur. De ce constat est né les 10 commandements d'une fille de quartier, un livret fait de photos, de témoignages, de petites phrases bien senties et percutantes. Alors il y a eu une expo photo au Champ Libre en mars dernier, il y a eu un stand au festival Quartier d'été en juillet, il y a eu des interviews, des articles, et puis on se retrouve en studio avec quelques-unes de ces jeunes filles, jeunes femmes qui ont fait naître ce livret des 10 commandements d'une fille de quartier. Bienvenue, et je vais, puisqu'elle n'est pas autour du plateau, je vais d'abord me permettre de remercier Vigetta, qui est votre animatrice, avec qui j'ai échangé et grâce à laquelle on est ensemble. Et je vais vous laisser maintenant vous présenter.
Bonjour, moi je m'appelle Kenza, j'ai 17 ans et je suis à la Maison de Suède depuis plus d'un an maintenant. Et je suis également bénévole.
Bonjour, moi c'est Aya, j'ai 16 ans, pardon. Je suis à la Maison de Suède depuis à peu près un an. Et je suis bénévole aussi à l'aide aux devoirs.
Alors bonjour, moi c'est Chérifa, j'ai 15 ans, je suis en 3e. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis à la Maison de Suède.
Bonjour, je suis Ayrounissa, j'ai 16 ans. Je suis à la MJC, ça fait maintenant plus de 8 ans.
Bonjour, alors moi c'est Isinour, j'ai 16 ans. Et je suis à la Maison de Suède depuis plus de 9 ans, voilà.
Et justement, pour celles qui fréquentent la maison de Suède depuis plus longtemps, vous aviez senti que votre présence, elle n'était pas forcément appréciée à la MJC, ou vous n'aviez jamais eu rencontré de problème
Verbalement, on n'a pas eu franchement de problème, parce que c'est surtout visuellement, vous n'avez pas envie de passer dans un endroit où il y a beaucoup de garçons qui vous regardent de la tête aux pieds, franchement. Et donc, on n'est pas forcément à l'aise mentalement. Du coup, ça nous, juste, c'est inaccessible pour nous et ça ne nous donne pas envie de passer le cap.
Alors là, vous êtes 5 autour du plateau. Il y a une copine qui vous accompagne. Vous étiez combien sur ce projet au final? Combien de filles ont participé?
Alors, on a commencé par 10 filles, par les plus grandes. Aujourd'hui, on est venu à une trentaine de filles avec beaucoup de différences d'âge. Ça va de 18 ans jusqu'à les 13 ans d'aujourd'hui.
Et ça, c'est un groupe qui se réunit dans la salle verte.
Exactement.
La fameuse salle verte. C'est quoi l'objectif de ce livret? Quel était son point de départ? On parlait là à l'instant des regards désagréables des garçons. C'était faire changer les mentalités?
Oui. En soi, c'était pour trouver notre place à la maison de Suède. Parce qu'en soi, quand on rentre à la maison de Suède, il y a énormément de garçons. Dans le hall. Du coup, ça nous permet pas trop de... Enfin, comme elle l'a dit, ça nous met mal à l'aise et on n'ose pas trop mettre les pieds là-bas.
Enfin, oui, c'est surtout pour qu'on soit plus à l'aise, parce qu'on n'était pas trop à l'aise.
Pourquoi vous avez peur d'être jugée quand vous dites là, passer, avoir des regards et mentalement, ça nous déstabilise? De quel jugement vous avez peur?
La génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux rumeurs. Et je pense que les filles de notre âge, elles n'osent pas trop se faire remarquer. Justement, elles essaient de se faire discrètes pour pas qu'on parle d'elles et qu'il n'y ait pas de soucis en fait.
Quel est le commandement? Alors ça va être, peut-être chacune va pouvoir répondre, mais le plus important parmi les 10, vous pouvez chacune avoir le vôtre et peut-être nous dire aussi pourquoi il est important pour vous.
Eh bien, moi, je pourrais commencer. Vas-y. Ce serait, tu n'es pas obligé de changer ton chemin à cause de la personne que tu vas croiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les filles du quartier, elles sont vraiment, on va dire, gênées de la gente masculine qui se trouve dans notre rue. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un désavantage parce que moi, j'en connais. J'ai des amis à moi qui ont fait un énorme détour parce qu'il y avait exactement 2-3 garçons sur le chemin qui, du coup, qui l'a regardé, mais c'est un énorme détour que normalement on n'a pas à faire. Aujourd'hui, on est venu à des moments où on est obligé de mettre des règles alors que ce sont totalement nos droits. On a le droit de passer de notre chemin, c'est notre droit quoi. En tant qu'humain, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'arriver à un stade aujourd'hui, c'est carrément des règles qu'on doit imposer aux garçons.
Et quand tu dis ça, est-ce que c'est les filles? Nous, on appelle ça des stratégies d'évitement dans la rue. Exactement. On évite certaines rues. Est-ce que on l'a intégré dans nos cerveaux? Ou est-ce que les garçons peuvent vous empêcher de passer à certains endroits? Ou c'est juste leur regard
Ils bloquent le passage, quoi. Donc, tu es un peu obligé de faire le détour. Et aussi leur regard, surtout.
Ouais, en fait, vous avez un regard constant sur vous, ce qui va vous déranger à un point que vous n'avez même pas envie de passer par ce chemin-là, que vous allez faire un énorme détour, vous allez prendre plus de temps pour aller, je sais pas, au métro en Réfréville. Vous allez prendre... Moi, j'en connais une amie, elle a pris 20 minutes à aller, alors que c'est juste à 8 minutes de chez elle. Du coup, c'est vrai que c'est quand même le double. Et c'est surtout pesant, en fait. C'est lourd pour... mentalement, d'avoir toujours un regard constant sur soi-même, et c'est dire que peut-être demain on va me dire que je suis une fille trop apprêtée pour sortir dehors, et juste trop apprêtée, je veux trop séduire les hommes, et du coup c'est vrai que tu te sens mal du coup, et tu n'as aujourd'hui c'est venu à un stade où moi j'en connais, elles veulent même pas sortir dehors, elles veulent juste rester chez elles pour pas qu'on dise qu'elle a fait ci, elle a fait ça.
Et alors, le côté trop apprêté, est-ce qu'il y a l'inverse aussi, quand justement on se maquille pas, on se met pas de bijoux, est-ce que on a l'inverse en disant ouais, tu fais pas attention à toi?
Justement, on a aussi un commandement, je peux m'habiller comme je veux. Du coup, on est un peu obligé de s'habiller pas trop comme on veut. Si on s'habille un peu court ou un peu trop pas bien pour eux, ben on aurait une mauvaise réputation, par exemple.
Exactement. Si tu mets une mi-jupe, tu tout simplement, désolé du terme, montrer tes jambes. Donc forcément, pour eux, pour la gente masculine d'aujourd'hui dans notre quartier, c'est être une pute. Ou si tu veux beaucoup trop, désolé du terme, vraiment, c'est ça, il faut dire les termes à un moment donné. C'est, ou sinon, si tu veux trop te couvrir, ça fait pourquoi tu te couvres autant, montre-nous tes belles formes. En fait, ça va dans les deux sens. C'est un cercle vicieux, ça va jamais s'arrêter.
Ouais, il y a aucune cohérence là-dedans. Exactement. Quoi. Ouais. Et pour poursuivre sur le commandement le plus important.
Personnellement, un de mes commandements préférés, c'est tu fréquentes qui tu veux. Parce qu'on est beaucoup jugé aussi par rapport à ça, par rapport aux personnes avec qui on traîne, avec qui on parle. Si demain, un garçon du quartier nous voit avec un autre garçon, qu'on considère comme un ami par exemple, et bah, ça va tout de suite apporter... toujours ce problème de rumeurs, de jugement, de
mauvaise réputation.
Et je pense que c'est surtout ce problème-là, les réputations, les rumeurs, etc., qui font peur aux filles du quartier. Et je pense que c'est plus de 70% du problème dans le quartier.
Et aussi, par exemple, si tu sors avec, enfin, t'as mis avec une fille qui avait une mauvaise réputation, toi aussi t'as une mauvaise réputation.
Ils te donnent l'image que eux, ils ont l'image de la fille avec qui tu traînes, en fait.
En fait, on nous associe avec cette personne. Alors qu'on peut être tout le contraire.
Mais là, on parlait justement d'être apprêté ou pas trop, de montrer un peu trop ou pas assez. Ils n'ont pas non plus de constance là-dedans. Quoi que vous fassiez, en fait, vont vous embêter pour rester poli.
C'est tous nos faits et gestes, en fait, qui sont surveillés dans le quartier.
Et ces garçons, ils ont quel âge?
16 ans, 17 ans, ça dépend.
Alors, ça va de 12 ans jusqu'à des 18 ans.
Mais après, même 20. Même
ouais, 20.
Et ils sont raisonnés par les plus âgés?
Eh bien, oui. Moi, je pourrais dire oui. Moi, j'en connais un homme de 40 ans qui a fréquenté la maison Suède et tout. Donc, il sait très bien qu'à partir d'un moment, c'est parce qu'une fille s'habille court que c'est forcément une fille pas bien, une fille pas fréquentable. Du coup... Je sais et je vois aussi que la personne âgée, on va dire ça comme ça, même si 40 ans, c'est pas vraiment âgé. Désolée.
Je vais y aller parce que moi, je suis même pas à l'EHPAD là.
Non.
Non, c'est drôle.
C'est juste, moi, je sais très bien et je le vois que la personne qui a plus de 40 ans a un énorme impact sur les jeunes de 25 ans aujourd'hui au quartier. Parce que c'est un plus grand et c'est un plus grand et on va dire ça le respecte plus pour bien sûr montrer que.
Et ces garçons, ils ont des sœurs, des cousines, des...
Oui.
Et ils se comportent de la même façon?
En fait, le souci, c'est que quand on leur parle de leur propre famille, en leur disant « imagine, c'est ta sœur et tu fais pareil », eh ben, ils vont se braquer. Ils vont se braquer, ils vont commencer à nous insulter, ça va partir loin. Alors que c'est juste pour donner un exemple, mais eux, ils ne le comprennent pas. Ils le prennent comme une sorte d'insulte, en fait.
Mais sinon, ils ont tous une grande sœur ou des petites sœurs.
Ou des cousines.
Ouais. Des cousines, tout simplement.
Un autre commandement que vous voudriez mettre en avant, commenter? Kenza, vas-y.
Moi, j'ai choisi tu feras ce que tu veux sans te soucier d'une quelconque réputation. Parce qu'à partir du moment où tu as une réputation, qu'elle soit fausse ou vraie, tu vas t'interdire de faire plein de choses. Que ce soit passer par un endroit, faire une activité où il y a des garçons, parce que tu vas savoir que tu vas te faire juger et tu n'as pas envie. Et c'est dommage parce que à partir du moment où tu as une réputation, elle va te suivre toute ton adolescence et tu vas jamais pouvoir t'en débarrasser. Et si c'est faux, c'est encore plus triste parce que justement, tu gâches des moments de ta vie pour des paroles, pour des gens qui te jugent alors que tu les connais même pas.
Ouais, c'est dur de s'en défaire.
Ouais, c'est ça.
Comment votre livret a-t-il été accueilli? Alors à la maison de Suède, mais peut-être plus largement dans le quartier, et puis peut-être, je sais pas, vos frères, vos parents, j'en sais rien, mais comment il a été accueilli le livret?
Alors c'est vrai que c'est pas facile pour les garçons d'aujourd'hui qui sont au quartier de voir que jusqu'à hier ils faisaient ce qu'ils veulent, ils imposaient leurs lois, même à la maison Suède, même si le directeur était bien sûr de notre côté parce que lui-même, on a réalisé un film, lui-même il a témoigné là-dedans que à partir de 12-13 ans, les filles elles venaient même pas à la maison Suède parce que les garçons prenaient beaucoup plus de place que les filles. Et donc, c'est surtout qu'en fait, jusqu'à hier, ils avaient vraiment tout ce qu'ils veulent. Ils s'asseyaient comme ils le veulent, ils se comportaient comme ils le veulent. Mais c'est vrai que jusqu'à... Du coup, aujourd'hui, ça a changé. Et ça, bien sûr, ça les a choqués. Parce que jusqu'à hier, ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on voit des jeunes filles donc, qui vont devenir femmes, qui sont devenues femmes, se révolter, donc ne voir que ça ne leur plaît pas. du tout leur, les comportements de, des garçons. Et c'est vrai que ça les a plutôt choqués parce qu'on a plutôt fait des expositions partout, notamment au parc qui est très près de la maison Suède. Donc bien sûr, ils les ont vus. Peut-être ça, moi personnellement, j'ai pas entendu de mauvaises remarques. Parce que moi, j'ai un grand frère qui, du coup, fréquente la maison Suède. Il travaille aujourd'hui. Il fréquentait le quartier sans, on va dire, l'obscurité du quartier en soi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu de très bonnes réponses de sa part. Il a dit qu'il était très content, mais que c'est vrai que c'était pas facile dans la société actuelle d'imposer de telles règles à des garçons qui sont habitués à vivre comme ça pendant plus de, on va dire, allez...
Qui ont toujours connu ça, en fait.
Exactement.
Mais ouais, après, il y a des garçons, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont pris au sérieux? Enfin, ils n'ont pas trop pris au sérieux non plus, il y en a.
Ouais.
Votre projet, ils ne l'ont pas pris au sérieux.
Ouais, exactement, ils ont dit, ouais, ça n'a pas eu un impact sur tous les garçons que, on va dire, comme mon frère.
Bah, après, ce qui est compliqué, c'est que dans tous les quartiers, pas que le nôtre, enfin, le nôtre, pas ce, dont celui où il y a la maison de Suède, tous les quartiers, j'ai envie de dire, même de France, c'est la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas changer du jour au lendemain une mentalité qui a été comme ça depuis toujours et de partout. Ça prendra du temps, mais peut-être que ça marchera.
Des quartiers de partout, en fait, pour les hommes. Ouais. Et oui, ça prend du temps quand on essaye de faire changer la société, mais il ne faut surtout pas lâcher l'affaire et baisser les bras, au contraire. Quoi,
ouais,
parce
que
c'est votre pierre à l'édifice de se livrer, les expos, les interviews, pour que un jour, ça change vraiment. Il y a eu d'autres réactions, des choses positives, on vous a félicité
Quand on est allé au Gaïol et qu'on a exposé les livrets, il y a énormément de personnes qui se sont intéressées par rapport à ça et ça leur a plu, notre projet des 10 commandements. Ils se sont intéressés, ils ont essayé de comprendre et oui, bah, c'est parti super loin quand même.
Ça, c'était à Quartier d'été, tu veux dire,
oui,
là en
ça.
Juillet. Ouais, Quartier d'été qui vous a laissé une partie d'un stand où le livret était exposé et les gens pouvaient le prendre. Est-ce qu'il y a des garçons qui ont changé? Est-ce que vous avez vu, alors même un petit peu, quoi, qui vous laisse passer sans vous regarder, qui...
J'ai l'impression que plus tu t'imposes dans le quartier, plus les personnes y vont... pas te calculer, on va dire. Ils vont pas essayer de savoir pourquoi tu es là. Si tous les jours tu viens à la maison de Suède et que tu t'imposes, que tu fais vraiment ton travail à toi et que tu rentres sans se soucier d'eux, et ben il y en a qui vont pas réagir. Ils vont se dire bah elle est venue, elle a fait ses affaires, on s'en fout.
Mais après il y en a, je crois ils ont un peu quand même pris conscience. Ils se sont dit ah oui, ok, un peu.
Ouais. Ouais, elles souffrent, elles en ont marre qu'on les empêche de passer, qu'on les critique surtout.
Ouais.
Heureusement, peut-être que certains.
Sinon, l'autre moitié, il y a encore des jugements par rapport à ça. Si tu passes à la maison de Suède ou dans le quartier juste en face, enfin, ils vont pas comprendre pourquoi t'es là. Ils vont juger. Ça a pas changé encore. Pas totalement.
Et des réactions négatives?
Oui, ouais.
Ouais. Par rapport au livret, par rapport à tout ce que vous avez fait, il y a eu des réactions négatives de c'est pas votre place, vous avez pas à faire ça.
Ouais. Mais après, c'est entre eux qui parlent de ça. En fait, eux, quand ils parlent de quelque chose, ils ont un groupe entre eux où ils parlent, etc. Ils se moquent. Et ça, ils nous le disent pas en face, en fait. Ils préfèrent garder ça entre eux, se moquer, rigoler.
Mais bien sûr, ça fuite. Ça fuite. Par exemple, moi, comment je sais que ça a déplu aujourd'hui aux garçons que on a imposé nos règles alors qu'ils sont nos droits au quartier? C'est parce que mon frère aussi, il a forcément des connaissances qui sont pas d'accord avec notre décision aujourd'hui, avec nos droits aujourd'hui. Et donc, c'est très facile. Donc, ça ressort vite. Et on va dire, faut même pas s'étonner des personnes qui sont pas d'accord avec nos choix, avec nos droits. On va dire ça comme ça.
Alors, juste avant ma dernière question, je voulais quand même citer les partenaires qui vous ont suivis. Vous allez voir que ça peut être en lien avec ma dernière question. Il y avait le photographe qui a quand même réalisé de superbes photos. C'est Guillaume Maillet, je prononce bien. Il y a la ville de Rennes, il y a le département, il y a les Champs Libres et il y a l'association Partout Artiste aussi qui vous a suivi. Et alors, c'est quoi la suite? C'est quoi les projets autour... autour des 10 commandements d'une fille de quartier?
Bah, pour nous, on aimerait bien présenter le projet dans toute la France, le partager avec d'autres maisons de quartier parce que le projet, en fait, il ne concerne pas que nous. En fait, il peut concerner encore beaucoup plus de personnes qui peuvent vivre ça.
Qui sont même dans d'autres villes aussi.
Ouais, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est tous les hommes qui sont concernés. Les stratégies d'évitement dont on parlait, c'est pas que autour de la maison de Suède, à Bréquigny, à Villejean, à Clenay, c'est aussi dans le centre-ville de Rennes, et ça peut être dans n'importe quelle ville. Et vous l'avez partagé avec d'autres MJC de Rennes. Est-ce que vous êtes allé le présenter à l'Antipode ou...
Non, non, pas encore, mais c'est dans un de nos objectifs qu'on pense faire à l'avenir. Exactement.
Et il y a quand même un point positif qu'on abordait en tout début d'interview, c'est le fait que vous étiez 10, aujourd'hui vous êtes 30 dans cette salle, enfin, la salle verte qui vous est dédiée, où vous êtes en non-mixité et que vous discutez entre vous et vous avez des projets. Ça, ça vous fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de filles, de femmes qui vous ont rejoint.
En fait, ce qui fait plaisir aussi, c'est que de base, c'était que les grandes, on va dire, celles qui ont 18 ans à l'heure d'aujourd'hui, qui étaient dans le projet. Et que petit à petit, les petites aussi se sont intéressées à ce projet, intégrées. Moi, il y a quelques mois, j'étais pas encore dans ce projet. Et j'ai vu qu'il était. C'était intéressant. Ça m'a plu et j'ai essayé de m'intégrer le plus possible. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais partie des 10 commandements.
Et aussi, ça fait plaisir parce que nous, là, les jeunes, les plus jeunes, elles ont 13 ans, 12 ans. Nous, à leur âge, on partait pas trop du coup, parce qu'on n'avait pas de salle, tout ça. C'est après, ça c'est venu et tout. Donc, franchement, moi, je suis contente pour elles. Parce que nous, avant, on pouvait même pas passer et tout.
Non, mais on voit une belle évolution quand même, déjà. Et par exemple, le prochain projet qu'on a avec les 10 commandements, c'est qu'on doit aller à Paris pour une remise avec Aiguillon. Avec certaines wifi du groupe qui peuvent y aller. Et rien que avec cet exemple-là, on voit qu'on évolue petit à petit.
On aurait une remise de trophée.
Ouais, c'est ça, chercher un prix à Paris.
C'est ça.
Ok, et c'est quand ça ?
C'est le 25 octobre, à la fin du mois, là.
On a aussi, au Champ Libre, fait une exposition dans le cadre Nos Futurs. Ce projet-là, en fait, ils incitaient les jeunes, entre parenthèses, à présenter leur projet. On a présenté notre projet personnellement et il y avait plein de personnes qui étaient intéressées, qui nous posaient des questions. Enfin, on a échangé aussi avec eux et qui ont trouvé ça aussi, super bien. Enfin, que aussi que des filles de notre âge commencent à s'investir comme ça dans un projet. Quand même, on peut dire qu'il est
qui est fort, qui est important, projet où on ne vous attend pas forcément en plus, sur cette prise de parole compliquée, j'ai envie de m'habiller comme je veux, j'ai envie de faire ce que je veux, être aussi libre qu'un garçon.
Oui, voilà, on a envie d'être libre, d'avoir notre propre liberté, notre propre façon de penser,
Bravo en tout cas.
Merci beaucoup.
Parenthèse, c'était juste pour dire que si aujourd'hui on a réussi à venir à un tel niveau, à venir jusque-là, jusqu'à être dans une chaîne, quoi,
dans une radio. Ouais.
Voilà. C'est premièrement, bien sûr, avec l'aide de Malek, donc le directeur, mais aussi l'animatrice, donc aujourd'hui qui ne travaille pas à la Maison Suède, Apolline. Ça me tenait franchement à cœur de le dire ici, parce que sans elle, franchement, entre nous, il n'y aurait pas eu un aussi beau projet et qui arriverait aussi loin.
Elle nous a encouragés.
Ouais, c'est vrai que j'ai remercié Vigetta qui vous suit aujourd'hui, mais il y avait Apolline avant qui est plus là et merci de l'avoir signalé parce que je l'avais pas fait. Donc c'est important. Merci à Apolline. Big up Apolline.
En fait, ce projet c'est pas un simple projet pour nous, c'est aussi un combat.
Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était c'est très précieux de vous entendre et d'avoir ce livret qu'on va mettre à disposition dans les studios de Canal B. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va se quitter en musique. On va faire une nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On va écouter Lizzie Young, Kill All the Men.